Entre-temps, entre nous, un partage de réflexions avec le doyen Philippe Capel-Dumont. Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 en compagnie du doyen Philippe Capel-Dumont, doyen honoraire de la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris, professeur des universités, professeur de philosophie à l'Université de Strasbourg. Philippe, ce dimanche, nous avons choisi un sujet très grave, mais un sujet qui est préoccupant et qui est pénible et qui est douloureux pour beaucoup de nos contemporains, c'est l'angoisse. On sait très bien que dans le monde actuel, beaucoup d'hommes sont angoissés, sont dépressifs, sont sujets à des crises de panique, alors que globalement, ils sont mieux soignés, ils sont plus riches, ils ont moins faim, ils sont plus sécurisés. Comment se fait-il cette angoisse qui gangrène ainsi la vie des gens? Pourquoi?
Oui, vous avez raison de parler de l'angoisse qui gangrène. D'abord, il faut bien distinguer l'angoisse de la peur. Ce n'est pas la même chose, n'est-ce pas ? Lorsque nous avons peur, c'est que nous identifions l'objet devant lequel nous avons peur. Nous avons peur d'un chien, nous avons peur dans la montagne, nous avons peur. On sait très bien de quoi nous avons peur. Le propre de l'angoisse, c'est qu'elle n'a pas d'objet. Kierkegaard, au XIXe siècle, avait bien montré ça dans le traité du désespoir et de l'angoisse, qui était le premier, au fond, théoricien philosophique de l'angoisse, et il montrait à quel point l'angoisse est d'une certaine manière incurable, car elle est devant rien.
Elle est comme un cancer de l'âme.
Il n'y a rien, c'est le vide si vous voulez, l'angoisse. C'est l'abîme en quelque sorte, on ne sait pas contre quoi il faut se révolter. Quelque chose vous envahit, qui fait que vous ne savez plus d'où vous venez, ce qu'il faut faire, et donc si vous n'avez pas une main, une épaule, vous êtes perdu. Et ce sont des sentiments que l'on peut éprouver au quotidien, et pas simplement dans des situations extrêmes. Tout à coup, l'angoisse vient à vous, et il n'y a pas d'objet. Alors, malheureusement, les pays occidentaux, la France, mais pas seulement, sont des pays où on consomme énormément d'antidépresseurs. Ça devient un vrai problème. C'est souvent aussi parce que la sécurité sociale rembourse quelquefois certaines choses. Trop peut-être, je ne sais pas. Enfin, en toute hypothèse, c'est un symptôme d'une société qui ne va pas. Alors, pourquoi? Il y a plusieurs problèmes, si vous voulez, si on s'en tient simplement au constat ou au diagnostic. D'abord, nous pourrions faire le lien avec une émission que nous faisions l'autre jour sur l'éducation et les limites, à savoir qu'il n'y a jamais autant d'angoisse que lorsqu'il y a absence de repères et absence de limites. Et la fonction d'une éducation, c'est précisément de donner des repères et donc de donner la sérénité, la paix, le bonheur, la plénitude. Alors l'angoisse existe symétriquement l'inverse, le contraire. Ça, c'est un premier point. Je pense aussi que plus gravement, l'angoisse vient de ce que nous ne savons pas quoi transmettre. Les parents eux-mêmes sont perdus devant l'abîme. Et ce qui faisait la sécurité d'un groupe, des communautés primitives, c'est qu'il y avait le vieux, le sage, qui transmettait, c'était des contenus objectivés, et on savait que si l'on faisait la même chose que ce qu'avait fait le vieux ou le grand-père, nous aurions toute chance d'être installés, d'avoir une place dans la société. Alors du même coup intervient un problème annexe, c'est que nous ne savons plus très bien où sont les positionnements sociaux. Je suis très mal à l'aise quand certains instituteurs ou certains professeurs considèrent les élèves comme leurs petits frères. Non, on est dans une position hiérarchique qui doit être honorée. Et les enfants sont parfois angoissés parce qu'ils attendent du maître ou du professeur ou de l'instituteur qu'il joue son rôle. De même qu'on attend du père qu'il joue son rôle de père et non pas qu'il soit un grand frère. Et quelquefois, les pères se comportent comme des grands frères, voulant éternellement jeunes, etc. Alors, pourquoi pas ne pas être jeune? C'est très bien, n'est-ce pas? Mais le jeunisme est sans doute une perversion de la volonté de rester jeune. Et je crois que les enfants, sentant l'absence de positionnement stable, de stabilisation sociale, sont dans l'angoisse, indéniablement.
Alors, les savoir-faire étaient également dans les mains des plus âgés, qui les transmettaient aux plus jeunes. Aujourd'hui, avec l'ère de l'informatique, on serait plutôt dans une période où c'est le jeune qui va enseigner le vieux, puisque l'informatique est plutôt l'apanage des jeunes qui savent la manier, qui ont beaucoup de dextérité à le faire, alors que les personnes plus âgées ont du mal à intégrer ces datas tout récents. Est-ce que là aussi, il n'y a pas une inversion?
Si, c'est vrai. Il est vrai que les enfants de l'âge de 8 ans, 9 ans, sont très performants dans la manipulation des objets informatiques, ordinateurs, PlayStation, etc. Ils font ça beaucoup mieux que les parents. De ce point de vue, oui, il y a certainement un problème. On a toujours trouvé ça, je pense notamment aussi aux populations immigrées, par exemple, où les parents ne parlent pas bien la langue du pays. En revanche, ce sont les enfants qui souvent font les lettres des parents. Donc il y a une sorte d'humiliation aussi du père, mais qui peut être compensée par le fait que le père est porteur de valeurs, si vous voulez, porteur néanmoins d'un cadre d'espérance et d'un cadre idéologique au sens large du terme. Alors de fait, vous posez une vraie question qui est l'accélération technologique, qui fait que ce que nous apprenons aujourd'hui ne servira peut-être plus à rien, mais en tout cas peu de choses dans 20 ou 30 ou 40 ans. Et d'une certaine manière, le savoir dont nous disposons, technologique, sera inopérant. Ce n'est pas vrai des choses fondamentales, précisément. Et c'est là que je viens, si vous voulez, répondre à votre question. Car se tenir dans la vie transcende les générations, savoir les grands, les repères de la vie, l'amour des autres, le respect de l'autre, le goût de l'effort, le goût du travail, se tenir avec courage. Ce sont des valeurs qui permettent de transcender le temps et de se rendre en quelque sorte apte à gérer la nouveauté.
Les choses importantes, les valeurs, la transmission est toujours assurée, alors qu'au fond, la technique, le savoir-faire, le matériel, mon Dieu, là, c'est vrai que les valeurs se sont inversées. Les jeunes enseignent les vieux, mais pourquoi pas, au fond ? J'allais dire, c'est comme une cosmétique, c'est comme un habillage, c'est pas le fond des choses.
Non, je crois qu'on peut tout à fait se faire respecter en admettant que son enfant soit dans certains domaines plus performant que soi-même, mais ceci ne retire rien à la responsabilité que l'on peut avoir dans la transmission des fondamentaux. C'est un vocabulaire qui revient, vous l'avez observé en ce moment. Le retour aux fondamentaux doit aussi se jouer dans le rapport entre les générations. Et pour ma part, je suis farouchement opposé au nivellement générationnel, si vous voulez. Nous avons des positions au sens fort hiérarchique du terme, hiérarchique. L'enfant n'est pas le père n'est pas l'enfant, et nous avons des rôles symboliques à assumer. Et je pense que si nous assumions davantage nos rôles symboliques, l'angoisse disparaîtrait d'autant, au moins cela.
Alors, ceci est peut-être rendu un peu plus difficile aussi par ces fameuses familles recomposées dans lesquelles, quelquefois, les âges sont aplanis, puisqu'il arrive que le neveu ou la nièce soit en réalité l'aîné de sa tante ou de son oncle, par alliance ou par addition. Donc, au fond, il y a là une sorte de brouillage des codes et des références qui rend la chose difficile.
Ne jugeons évidemment pas les personnes, ni les familles recomposées, etc., mais soyons quand même objectif un tantinet. Tout le monde sait que les enfants dans les familles recomposées, surtout les plus jeunes, sont perturbés dans leur itinéraire scolaire. Alors, on peut très bien considérer que c'est un problème secondaire. Encore une fois, il ne s'agit pas de...
C'est pas systématique.
Il y a parfois des moments, mais il y a des perturbations qui peuvent être graves. Pourquoi ça peut se passer bien ? Parce que le positionnement social est clair. N'est-ce pas ? Et donc, c'est ça qui fait problème dans la famille recomposée, c'est qu'on ne sait plus très bien, l'enfant ne sait plus très bien comment se positionner de façon stable au regard de son père, de son oncle, de sa belle-mère, etc. N'est-ce pas ? Et donc, la famille recomposée a une responsabilité supérieure, en quelque sorte, car il faut réinventer les positionnements sociaux. Et voilà précisément ce que j'entendais dire, à savoir que ce déficit perturbe l'enfant jusque dans sa vie scolaire. Il ne sait plus très bien quelle est sa position, non seulement dans la famille, mais du même coup, dans la vie sociale.
Alors nous sommes revenus, en quelque sorte, à la transmission et à l'éducation, comme une semaine précédente. Philippe, qu'est-ce qu'on pourrait dire, alors de façon très simple et très claire, aux parents et aux familles ?
L'angoisse fait aussi partie de l'expérience humaine. Ne soyons pas trop négatifs relativement à l'angoisse, nous l'avons été jusqu'à maintenant. L'angoisse peut avoir une vertu, si vous voulez, c'est de nous éveiller au mystère de la vie, que ça ne va pas de soi. Nous ne sommes pas dans une bulle internet, nous ne sommes pas dans la télé-réalité permanente, nous ne sommes pas dans le divertissement permanent. Et Pascal, précisément, le grand Pascal, les pensées de Pascal, lorsqu'il mettait le doigt sur le divertissement, justement, voulait nous provoquer à l'éveil. C'est d'ailleurs, Platon déjà disait, on peut vivre endormi. Eh bien, nous faisons le choix de vivre éveillé. Et donc, non pas de survivre, mais de vivre. Eh bien, l'angoisse peut être aussi un stimulateur dans la prise de conscience du monde, dans sa complexité, et donc dans la responsabilité qu'elle appelle. Mais ce qui ferait problème, c'est que l'être humain soit continuellement angoissé. L'angoisse est un révélateur, mais il faut que ensuite cela soit transformé positivement dans une création de valeur, une fécondité. C'est à cette seule condition que l'angoisse devient en quelque sorte utile, entre guillemets. En tout cas, elle peut devenir féconde.
Elle a permis la survie de l'espèce, parce que c'était les hommes angoissés qui survivaient, et ceux qui étaient peut-être un peu trop confiants, qui étaient mangés par des espèces plus prédatrices.
Vous avez raison, l'angoisse permet l'anticipation, elle permet d'élever le regard au-delà du guidon, elle permet de regarder l'horizon, elle permet non pas d'être méfiant, mais d'être vigilant. Et la veille, précisément, c'est aussi ce qui définit notre condition humaine. Nous vivons éveillés dans la veille, dans la vigilance.
Donc l'angoisse, pas forcément les ailes noires, des ailes noires ou blanches, suivant comment on y réagit et ce qu'on en fait.
Tout à fait.
À bientôt Philippe, et merci pour cet éclairage sur l'angoisse qui, malheureusement, étreint beaucoup d'hommes aujourd'hui.